Adjès, c'est l'interprète ici. On est en train de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui manque. Non, c'est Gisela qui parle maintenant. On commence avec l'enregistrement et nous allons commencer avec l'appel. L'enregistrement est maintenant démarré et l'interprétation devrait commencer. Bonjour et bonsoir à tous. Soyez bienvenus à cet appel de formation de compétences du programme 2015. C'est le septième séminaire web au sujet de la sécurité et de la stabilité. C'est notre septième donc séminaire web de cette série. On est le 10 juin 2015 à 21h UTC. Nous voudrions rappeler à tous les participants de dire leur nom au moment de parler afin de permettre à nos interprètes sur le canal français et sur le canal espagnol de vous identifier. Nous vous demandons en même temps de parler à un débit raisonnable afin de permettre une interprétation correcte. Merci. Alan, vous avez la parole. Merci, Gisela. Je vous remercie de l'enregistrement et de l'interprétation. Je ne suis pas Tishani Benjamin, mais je suis son remplacement parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'être ici aujourd'hui. Tishani a été la personne qui a organisé cette série de séminaires web, faite à cause duquel on lui est très reconnaissant. Nous voici réunis dans un des séminaires web auxquels je devrais en fait être un participant parce que bien sûr la sécurité et la stabilité du DNS sont des questions critiques essentielles et ce sont également des aspects desquels s'occupent des personnes très intéressantes. Alors, sans tarder, je donnerai la parole à Julie Hammer, agente de liaison de la LAC auprès du Comité consultatif de la sécurité et de la stabilité, donc SAC, pour qu'elle démarre ce séminaire web. Julie, allez-y. Julie prend la parole. Merci, Alan. On passe maintenant à la diapo suivante. Ce que je voudrais faire dans le séminaire web d'aujourd'hui et de définir la sécurité et la stabilité, puis discuter du rôle de l'ICANN dans ce domaine, voir pourquoi la sécurité et la stabilité sont si importantes et finalement expliquer ce que c'est que le comité consultatif de la sécurité et la stabilité. Après avoir abordé ces quatre points, je donnerai la parole à Dave Piscitello et à Richard Lam du personnel de l'ICANN, qui expliqueront quels sont les détails intéressants du programme de formation de compétences de l'ICANN et d'autres aspects très importants de la sécurité et la stabilité, bien sûr. Alors, l'ICANN a une mission technique qui est de coordonner l'attribution du système d'identifiant unique de l'Internet. Et le plus important dans le domaine de cette mission technique est de préserver et d'améliorer la stabilité, la sécurité et la résilience de ces systèmes. On voit ici deux autres rôles qui sont de maintenir et d'opérer le serveur de nom de la racine L en tant que superviseur au nom de la communauté et puis de gérer les systèmes internes propre de l'ICANN et de fournir un portail disponible au public afin de divulguer et de partager des informations. Ce deuxième rôle principal de préserver et de renforcer la stabilité, la sécurité et la résilience est la question qui nous occupe aujourd'hui. Donc, il faut d'abord définir ce qu'on veut dire par cela. Dans le cadre du SAC, cela a été défini de la façon suivante. La sécurité est définie comme la capacité de protéger et d'empêcher la mauvaise utilisation des identifiants uniques de l'Internet. La stabilité est la capacité d'assurer que le système opère tel que prévu et que les utilisateurs des identifiants uniques ont la confiance que le système opère tel que prévu. La résilience et la capacité du système d'identifiant unique de pouvoir tolérer ou surmonter ou survivre aux attaques malveillantes de manière efficace, sans interrompre ou sans avoir des arrêts de service. Diapo suivante. Alors, c'est dans ce contexte qu'il est important de comprendre que la CAN n'est ni une agence d'application de la loi, ni un tribunal juridique, ni un organisme gouvernemental. La CAN est un organisme composé de parties prenantes de l'Internet. La CAN n'est pas responsable de surveiller l'Internet ou de lutter opérationnellement contre le comportement criminel. La CAN n'est pas responsable de déterminer ou de décider ce qui constitue un comportement illicite sur Internet. La CAN ne participe pas à l'utilisation de l'Internet dans des activités liées au cyberespionnage ou à la cyberguerre, et la CAN n'est pas autorisée à suspendre ou à résilier unilatéralement des contrats de nom de domaine. Il y a des contrats qui comprennent non seulement les titulaires des noms de domaine, mais également les fournisseurs d'enregistrement de noms de domaine. Alors, on a vu tout ce que la CAN n'est pas, mais maintenant, on va voir ce que la CAN est et ce que la CAN fait. La CAN assure un rôle important dans le soutien du travail de l'application de la loi ou des agences gouvernementales dans l'exécution des actions légitimes en leur nom. La CAN, d'autre part, participe également avec la communauté de la sécurité opérationnelle dans l'étude, l'analyse et l'identification d'utilisation ou d'abus malveillants du DNS. Et la CAN assure également un rôle qui est égal à celui des parties prenantes par rapport au protocole Internet. Alors ici, il faut parler et considérer l'évolution des protocoles Internet et des normes liées qui ne correspondent pas à la CAN, mais qui en réalité sont élaborées au sein de l'IETF, donc l'équipe de travail du génie Internet, et à travers également le Conseil d'architecture Internet, donc l'IAB. Dans cette diapo suivante, on voit qu'il y a différentes manières dans lesquelles la CAN s'occupe de la sécurité. La sécurité pourrait être considérée au sein de la CAN comme une valeur fondamentale en conformité avec l'affirmation d'engagement. En même temps, la sécurité constitue un des domaines clés de centralisation dans le plan stratégique de la CAN. C'est également un domaine thématique général qui comprend l'ensemble de l'organisation. La sécurité est aussi un département au sein de la CAN, parce qu'il y a une équipe de sécurité, une équipe chargée d'assurer la sécurité. C'est également un élément essentiel dans les projets et les activités de la CAN, et c'est bien sûr un groupe de parties prenantes clés au sein de la communauté de la CAN, c'est-à-dire le comité consultatif de la sécurité et de la stabilité, appelé également SSAC. Diapo suivante. Alors, pour vous expliquer rapidement pourquoi la sécurité et la stabilité sont importantes, on dira premièrement qu'elles contribuent à la stabilité de l'environnement économique mondial, car leur rôle est fondamental pour les échanges économiques d'aujourd'hui. Le système du DNS donc contribue à ce développement économique et à ces activités du secteur. La sécurité et la stabilité aident à la prospérité des nations développées et en développement. Elles supportent ou soutiennent également la sécurité nationale, la réponse des urgences et la préservation de la loi. Elles facilitent le fonctionnement correct de l'infrastructure critique, renforcent les occasions d'affaires et de commerce, permettent le libre-échange d'informations. Et finalement, protège les intérêts des utilisateurs individuels de l'Internet. Diapo suivante. Je partage maintenant certaines informations avec vous concernant le comité consultatif de la sécurité et de la stabilité, le SAC. Ce comité a une charte qui lui octroie la mission, lui accorde la mission de conseiller la communauté de la CAN et le conseil d'administration de la CAN sur des sujets liés à la sécurité et à l'intégrité des systèmes d'attribution de noms et d'adresses de l'Internet. Le SAC a été créé en 2001 et a commencé à travailler en 2002. Ce comité conseille le conseil d'administration de la CAN, les organisations de soutien et les comités consultatifs, le personnel de la CAN et la communauté générale. À ce jour, le SAC compte 34 membres, tous désignés par le conseil d'administration de la CAN pour des mandats de 3 ans. Diapo suivante. Les activités du SAC sont divisées en différents groupes. On a un comité d'adhésion, une équipe spéciale de travail sur le suivi des conseils au conseil d'administration, les différents membres de SAC contribuent au groupe à travers ce comité que je viens de mentionner et à travers les équipes spéciales de travail. Cette équipe spéciale dont je viens de parler assure le suivi du résultat des travaux du SAC qui se traduit en conseils qui sont présentés au conseil d'administration. Pendant les réunions de la CAN, le SAC tient des réunions privées avec le DNSSEC. Ce sont des ateliers qui sont bien sûr ouverts à tous. Ce sont des ateliers annuels de SAC qu'il y a également. Où on considère les programmes de travail de l'année à venir. Et ces programmes sont mis à jour à chaque fois que cet atelier s'organise. Et puis, le SAC a des équipes de travail aussi qui s'occupent d'autres questions. Une équipe de travail très importante est celle qui s'occupe des listes de suffixes publics. Mais il y en a qui s'occupent également de la gestion des informations, de vérification de l'identité ou de la protection des titulaires de noms de domaine. Il y a une équipe de travail spéciale qui s'occupe de l'état actuel des GTLD, des corrections potentielles qu'il faudrait ajouter et qu'il faudrait apporter à ce système, ou peut-être des autres équipes de travail qui faudrait convenir. Diapo suivante. Alors, ces trois diapos qui suivent expliquent les différentes contributions, les différentes publications qui ont été divulguées par le SAC. Le SAC a préparé un nombre de rapports parmi lesquels il y en a qui s'occupent des catégories, des noms et des numéros. Et des différentes catégories, par exemple, des rapports sur les noms de domaine sur Internet, sur les améliorations qu'il faudrait apporter. Et finalement, le SAC a aussi publié 3 rapports qui soutiennent l'attention de la communauté centrée sur le transfert du rôle de supervision des fonctions IANA spécifiquement pour soutenir la communauté, pour aider la communauté à comprendre ce que sont les fonctions IANA et le contexte historique de ces fonctions également. ce sont des propositions importantes pour la transition qu'ils font dans certains de ces rapports, et dans d'autres, ce ne sont que des informations qui permettent de mieux comprendre le contexte des groupes qui s'occupent de la responsabilité et de la préparation d'une proposition pour le transfert de ce rôle de supervision des fonds Soyana. Le travail du S5 a été significatif dans ces dernières années si l'on considère la quantité de rapports qu'ils ont publiés. Alors, je donnerai maintenant la parole à Deb Bicitello et à Richard Lam pour qu'ils nous expliquent un peu mieux le point de vue du personnel de la CAN. Et donc, vous avez la parole. Vous m'entendez? C'est Dave qui parle. Je vous remercie d'assister à ce séminaire web aujourd'hui. Je voulais vous donner l'occasion de poser des questions sur ce qu'est notre travail quotidien. Je sais que pour la plupart, on a des intérêts différents de ce qui vous intéresse. Donc je voudrais que l'on parle un peu d'une des questions que Julie a soulevée, qui est la sécurité, la stabilité. En particulier, je le pense, qu'il faudrait essayer de pouvoir préciser quelques questions qui nous empêchent de bien suivre les informations qui apparaissent. Julie a beaucoup parlé des informations disponibles concernant la sécurité et la stabilité. Mais il me semble que la communauté devrait peut-être considérer d'autres aspects. Donc le système n'est pas censé attaquer les activités criminelles ou faire respecter les lois. Mais à mon avis, le système n'est pas stable dans la création d'occasions de demander des explications financières, par exemple, ou demander des informations de transparence. Alors, en termes de contrat, par exemple, avec la CAN, nous collaborons tous. Nous collaborons avec les recherches. On a des échanges au sujet de la sécurité. C'est Gisela qui prend la parole, Dave. Oui, dit Dave. Je m'excuse, mais les interprètes ont beaucoup de mal à vous comprendre. Est-ce que vous aurez une ligne fixe où on pourrait vous rejoindre, vous parler depuis un portable? Oui, dit Dave, c'est ça, c'est un portable. Gisela prend la parole. Peut-être si vous pourriez parler plus près du micro. Les interprètes de français et d'espagnol se plaignent du fait qu'elles ont du mal à vous suivre, à vous comprendre. C'est mieux? On va voir. Je m'excuse de ce contretemps. Si ça fonctionne pas, j'essaierai de me déconnecter et de voir si ça va mieux, mais je continuerai. Dites-la, prends la parole. Oui, merci. Bien, alors, c'est Dave qui reprend. Une partie de notre travail, je vais essayer de trouver mes diapos. Attendez. Oh, une autre diapo, diapo suivante. Je ne sais pas si c'est la bonne présentation. Julie? Oui, Dave, on vous entend, dit Richard. Dave prend la parole. Ah bien, merci. Merci de confirmer. Alors, nous devons considérer non seulement les noms de domaine en matière de sécurité et de stabilité, mais également la responsabilité de supervision de la CAN, ce qui comprend la coopération avec les différents systèmes, les systèmes identifiant la résilience, la sécurité et la stabilité de ces systèmes. La CAN fournit et assure un rôle de supervision. J'essaie d'avancer ici avec la présentation. Je ne vois plus rien d'autre dans la diapo. On peut avancer. Je vous passe mon fichier. Parfait. On continue. Nous divisons notre travail en quatre domaines fonctionnels. Un domaine qu'on connaît pas vraiment, mais qui est en réalité une activité constante, 24 heures, les 7 jours de la semaine. Et le domaine qu'on appelle la préparation et la sensibilisation des menaces. Cela, bien sûr, exige beaucoup de collaboration parce que notre équipe consacre beaucoup de temps au renforcement de nos compétences de préparation pour faire face aux menaces. Nous reconnaissons des parties telles que les bureaux d'enregistrement, par exemple, avec lesquels nous travaillons, pour lesquels il faut prévoir des menaces au système d'identificateur. Et par exemple, on peut travailler avec tous les CCTLD. Nos équipes ont donc la compétence, à travers leur préparation, de pouvoir résoudre les différents problèmes et les différentes menaces. Entre, par exemple, la CAN a des agents de liaison avec les bureaux d'enregistrement et les registres et agit en tant que conseil ou vise à fournir des conseils dans des situations où les tribunaux, par exemple, ne peuvent pas résoudre les inconvénients existants. Vous savez tous qu'il y a des logiciels malveillants sur Internet. Et donc, notre équipe, par exemple, a détecté l'existence de logiciels malveillants qui s'installent automatiquement sur votre ordinateur et qui utilisent vos données constamment. Pendant très longtemps, l'application de la loi a travaillé pour résoudre ces problèmes qui bloquaient le verrouillage. C'est grâce à l'identification de ce type d'activité que nous avons pu commencer à travailler sur les communications pour résoudre ces problèmes des registres, pour aider avec ces problèmes techniques qui auraient finalement été jugés par un tribunal. On a interprété ce qui devrait être appliqué à la suite d'une décision d'un tribunal. Et pendant très longtemps, nous avons essayé d'assurer que, en tout moment, la juridiction locale puisse appliquer les ordres des tribunaux et que la loi en vigueur soit respectée de manière correcte. Alors, c'est un processus très important pour nous. Et c'est également une activité qui est très bénéfique pour la communauté. À mon avis, cela permet d'assurer la stabilité d'Internet. Ce travail est fait parce que John et moi et Carlos, entre autres, sommes tous connus au sein de la communauté de la sécurité. Nous travaillons tous de près, à travers des listes de diffusion ou par d'autres moyens, avec la communauté. Nous partageons avec eux des informations par rapport à nos recherches, à nos enquêtes. Des fois, on essaie d'identifier des personnes qui participent à des programmes d'activité critique ou des personnes qui souhaitent aider et participer. Ou à d'autres types d'activités en général. Dans cette communauté, vous savez qu'il y a des personnes qui participent à ce type d'activité bien avant la création de la CAN même. Donc nous essayons de résoudre des problèmes avec toutes ces personnes.
Une des choses que nous essayons de faire actuellement pour c'est d'identifier et un programme qui on est en train d'essayer d'analyser le programme de nouveau GPLD et pour la première fois dans l'histoire d'ICANN, on réunit des informations et on essaye de comprendre, en fonction de notre propre analyse et des données que nous avons pu recueillir au sein du système de la racine L ou de nos partenaires qui travaillent sur différents problèmes au niveau de l'Internet. Et donc, nous travaillons sur un programme qui va pouvoir nous aider à surveiller les problèmes de hameçonnage dans le programme de GTLD, par exemple. Est-ce qu'il y en a davantage? Est-ce qu'il y en a moins depuis le nouveau GTLD? Pourquoi? On essaye d'analyser tout cela et de répondre à ces questions. Et nous avons un projet analytique aussi qui nous permet d'analyser les caractéristiques des différentes données dans la communauté au niveau financier ou autre. Comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce que les gens s'exposent davantage à une attaque criminelle parce qu'ils ne fournissent pas parce qu'ils ne mettent pas en place des mesures adéquates pour ne pas être piratés? Ce type de choses, hein? Voilà, c'est ce que nous faisons. Je pense que c'est le point le plus important. Et le dernier, et quelque chose que les gens ne connaissent pas, et nous parlons beaucoup de tout cela, nous travaillons et nous passons beaucoup de temps, nous voyageons beaucoup pour fournir une formation et ce qui nous permet de nous rendre dans des pays où ils n'ont pas accès à au travail avec des experts comme REC ou comme d'autres gens que nous avons dans notre équipe, que nous avons engagés. Et cela nous permet de nous rendre dans ces pays et de leur expliquer comment travailler sur la stabilité des réseaux, comment créer des opérations, comment mettre en place des opérations de sûreté au niveau des réseaux. Par exemple, Bob Litzlein, qui est un agent spécial au sein du FBI, est venu me voir lors d'une réunion de l'ICANN. Il m'a demandé de leur expliquer comment le DNS fonctionne et comment on fait certaines enquêtes. Et donc, j'ai eu une réunion avec lui. J'ai consacré 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures au fur et à mesure de plus en plus de temps. Ce programme s'est développé. Et nous fournissons maintenant des conseils, une expertise aux services de l'ordre de façon à ce qu'ils connaissent mieux tous les abus qui peuvent être réalisés au niveau du DNS. Et aujourd'hui, nous continuons à faire cela. Dans les 4 régions dans lesquelles nous sommes présents, et nous donnons ces cours en espagnol, en Amérique latine, John et moi-même, nous organisons cela au niveau de l'Europe et du Moyen-Orient. J'ai aussi beaucoup travaillé en Amérique du Nord et je travaille aussi au niveau de la participation au niveau mondial et je donne donc ce type de formation, ce type de cours de formation. Ça a été très, très, très bien reçu. Ces formations de compétences, nous avons reçu même un prix de la part de la sécurité de la société d'information pour le respect de la vie privée. Nous avons donc reçu ce prix. Nous étions vraiment contents. Donc, nous avons beaucoup d'activités actuellement. Je crois que je vais m'arrêter ici. Et je vais donner la parole à mon collègue qui vous racontera un petit peu ce qu'il fait et puis on gardera une 20aine de minutes pour que vous puissiez et le public puisse poser des questions s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Bien, d'abord, est-ce qu'il y a des questions avant que je commence? Bien, il n'y a pas de questions. Donc, la formation de compétences qui vient d'être présentée par Dex. Et je vais reprendre ça. Excusez-nous si on est un petit peu rapide pour les interprètes. En tout cas, la formation de compétences. Et ce qui concerne la formation de compétences, Dev a dit que nous avons créé donc une certaine confiance dans notre travail au niveau du service de l'ordre, au niveau du DNS, au niveau de la construction de réseaux sûrs. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir des connaissances. Ce qui est important ici, c'est que en une semaine, en quelques jours, que nous pouvons passer dans chaque région avec des gens de cette région on aborde certains thèmes et on crée des liens, on crée une confiance hein, avec ces gens-là. Et tout cela est beaucoup plus important que les réseaux Internet, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas bien, on a ce réseau humain sur lequel on peut compter. Donc maintenant, je vais donner des informations au service de l'ordre pour les aider à comprendre certaines choses, mais eux aussi et vont me faire part de certaines informations importantes si quelque chose a lieu. Ce qui est intéressant au niveau de notre équipe de SSR, c'est que nous sommes tout à fait différents. Dave et moi, hein, on dispute tout le temps, on a des visions tout à fait différentes des choses, ce qui est tout à fait positif. Je me réveille tous les matins et je me demande un peu pourquoi je suis encore au sein de l'ICANN. Je me pose cette question, qu'est-ce que je fais ici? Hein, on est tous dans cette activité parce que quelque part, ça nous intéresse. Ce que nous faisons nous intéresse et le résultat final nous intéresse. Donc une question que je voudrais poser ici et à tout le monde, c'est pourquoi est-ce qu'on travaille ici? Que se passerait-il si ICANN n'était pas là? Que se passerait-il si cette équipe de sécurité et résilience n'était pas là? Donc ce sont différents aspects. Hein. Hein, je travaillais auparavant dans le département d'État aux États-Unis et donc j'étais à l'origine de la création de l'IGF et puis à l'origine de la création du SSR. Des fois, je me demande qu'est-ce que cela a de positif, qu'est-ce que l'on fait de positif ici, et la réponse que je me donne en général, c'est que il n'y a personne qui coordonne la zone racine et les adresses IP et toutes ces choses-là et ne fonctionnerait pas, ce serait grave si ça ne marchait pas. On l'a dit déjà, hein, Julie l'a dit, nous proposons donc une stabilité pour le service du commerce. Pour le service du commerce, le commerce a horreur de l'instabilité, donc c'est très important pour le bien-être du commerce et pour le bien-être mondial. Hein. On parle de racines alternatives et quand on parle de cela, il y a des gens qui bondissent parce que c'est la pire des choses. Ce n'est pas si mauvais que cela, mais des fois, cela distrait les gens de ce qui est important, en fait. Donc, voilà. Et je me pose ces questions et je me dis quel est le contrôle que nous avons. Hein, je remercie Julie pour la clarté de sa présentation à ce propos. Tout le monde peut entrer en contact avec tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que notre fichier de zone racine fonctionne bien parce que nous travaillons bien dans ce domaine, mais nous n'avons pas pouvoir ici, ce qui est intéressant d'ailleurs. Donc je continue à me poser la question, pourquoi est-ce que je suis ici? Ça a l'air un peu bizarre comme organisation, mais il y a des choses que nous pouvons faire. Pas seulement au niveau de la formation de compétences dont je vais vous parler dans une minute, nous avons un accord avec les différents bureaux d'enregistrement, je vais en choisir un, voyons, qui leur permet de vendre ces accords, permettent aux bureaux d'enregistrement de vendre un point com, hein. C'est une manière de faire de l'argent. Hein. C'est un levier qui existe et qui est utilisé par les bureaux d'enregistrement, par exemple. L'équipe de conformité fait aussi cela. Et puis, la question que je me pose, est-ce que nous sommes des policiers ou est-ce que nous sommes des partenaires? Et de nouveau, comme Deb l'a dit, comme Julie l'a dit, nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires de la communauté. Et je pense que et c'est là qu'on contribue le plus, non seulement au niveau de la formation de compétences, mais aussi comme point de coordination pour la capacité à être prêt pour des fonctions clés fournies par l'équipe de SSR. Beaucoup d'orateurs disent que ne parlent pas de cela parce que tout cela se passe d'une façon discrète et du coup, il y a peu de points de coordination comme ICANN. Et la formation que nous faisons, de nouveau, je dirais que c'est quelque chose qui crée cette confiance entre les gens Et j'aime bien reprendre les paroles de cette personne du département de la justice qui dit à 10h, un samedi soir, à peine 2h, si je reçois un coup de téléphone, quelque chose qui est lié à mon travail, par exemple, annuler un site internet ou quelque chose comme ça, si c'est quelque chose que je reçois par un canal de, dans ma hiérarchie, hein, cette personne ne va pas me demander cela par téléphone. Et, mais s'il le fait, ça, la contrepartie en Estonie et le service de l'ordre de là-bas vont répondre au téléphone si on les appelle, vont s'occuper du problème, vont résoudre le problème et ce sera vite fait. Hein. Donc, et cela n'aura pas un impact trop important. Donc voilà, c'est ce type de choses, c'est ce type de choses qui comptent et c'est pour ça que les rapports humains, les réseaux humains sont importants. C'est une façon efficace de travailler, c'est comme ça que nous travaillons. Voilà. Donc nous avons fait beaucoup de choses ici en ce qui concerne la coordination. Nous ne limitons pas notre travail au DNS comme nous devrions peut-être le faire, mais des fois on est obligé de travailler comme expert dans d'autres domaines, comme par exemple l'OAS nous a demandé de créer un cadre national de réseau pour différents pays, de travailler. Et grâce à notre expérience, on nous a appelés pour travailler avec eux. Notre expérience dans le domaine des multiparties. Hein. Nous allons encourager une approche légèrement régulatoire, mais basée sur la loi. Et les points, les CCTLD ici sont un point clé. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que je me dis tous les jours pour me dire que ce que nous faisons est très utile, bien sûr. Et j'ai hésité à vous présenter le DNSSEC parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est important pour la zone racine et c'est un aspect différent de ce que nous faisons et cela est central dans de beaucoup de manières, pas seulement dans pour la sécurité du DNS, mais la raison pour laquelle nous nous levons tous les jours et nous nous occupons de cela, c'est que le DNSSEC est déployé à un certain niveau, il s'occupe de la sécurité des bases de données mondiales et il n'y a rien d'autre qui existe dans ce domaine. Si on peut réunir suffisamment de gens pour déployer une masse critique suffisante pour que tout à coup l'Internet des choses, le point le plus petit et tous les appareils auront quelque chose pour la sécurité, quelque chose de plus qui assure, hein, c'est le rêve d'un entrepreneur, je dirais. Et souvent, dans mes présentations, je me dis que peut-être je peux me mettre au travail. C'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie. Chaque fois que je vois une classe pleine de jeunes gens, de jeunes étudiants qui ont l'air d'avoir peur de se lancer dans quelque chose, hein, et j'ai envie de leur parler et c'est ce que je fais. Hein, et je leur dis qu'ils peuvent travailler dans le domaine du service de l'ordre, de la loi. Et j'essaye de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et au niveau du DNS, et au niveau de l'ICANN. Et on a vraiment une grande, des programmes de grande générosité, et pas seulement dans le domaine du DNS, dans le domaine des adresses IP aussi, etc. Bien. Je crois que ça fait 7 ans, plus de 7 ans que je suis là, donc je crois que ça fonctionne. Voilà. C'est fini, hein. Dev, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole. Dev prend la parole. J'aimerais maintenant qu'il y ait des questions, qu'on puisse répondre aux questions concernant les points les mécanismes du SSR, hein, si vous avez besoin d'exemples, par exemple, je serais ravie de vous les donner. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions, demande Alan. Nous avons une demi-heure. Holly, vous avez la parole. Oui, avant tout, un commentaire qu'une question. Une des choses que je fais, j'enseigne la communication. Et pour les avocats qui sont dans la salle, vous savez que la juridiction, c'est un problème. Et que selon le pays dans lequel on se trouve, ça change. Le diagramme d'ICANN est maintenant, puisque nous sommes dans un système de communication mondiale, le problème se trouve à l'étranger. Alors, que faire de ce problème lorsque ce problème se trouve à l'étranger, hors des États-Unis, hein, quand quelque chose ne marche pas? C'est là que les services de sécurité devront aller, et même si on sait que le problème de juridiction est un problème pratique. Donc je vous remercierai ici de répondre à cette question, mais aussi je vous remercie pour ce que vous faites, parce que vous êtes vraiment nécessaire dans ce domaine. Je pense que ma question... J'ai beaucoup lu les documents de SSR, et ma question est la suivante. Comment, est-ce que, dans quelle mesure vous pensez que c'est utile et qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que les gens lisent toutes les recommandations qu'on leur fait et être sûr qu'ils les appliquent? Merci. Je pense que vous me demandez dans quelle mesure SSR est utile, c'est ça, hein? Oui, oui. Bien. J'ai plusieurs réponses à vous donner. J'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur de la communauté de l'ICANN, beaucoup plus qu'à l'intérieur de la communauté de l'ICANN. Et une des choses qui m'étonne lorsque je vois la communauté de l'ICANN, c'est comme ça, cette communauté, hein, sont, la communauté de l'ICANN donne l'impression que c'est la plus grande chose dans le monde, le DNS. Et si ICANN s'en va, le DNS va s'arrêter. Et nous sommes une toute petite fraction de ce qui se passe, comme Rick l'a dit, dernièrement, la partie opérationnelle du DNS c'est, il faut se placer dans le contexte. La question de la partie opérationnelle, les services opérationnels que ICANN offre actuellement sont microscopiques si on les compare au nombre de systèmes finaux, au nombre de systèmes qui résolvent des noms de domaines dans le monde entier de la part de différentes organisations qui n'ont pas de contrat avec ICANN pour faire cela. Et ce n'est pas parce que j'ai... Je le sais parce que je passe de nombreuses heures en ligne. Donc, je dirais que le document de SSAC a eu un impact au sein de la communauté de l'ICANN, mais cela dit, il a eu un impact minime dans les structures américaines, par exemple. Et j'aimerais savoir comment, et j'aimerais en parler avec les membres de SAC, j'aimerais savoir comment on peut amplifier l'impact de ce que fait SSAC et des mesures que nous proposons. Nous avons fait des recherches et on s'est rendu compte que nous ne contactons pas vraiment les gens qui en ont besoin. Je contacte davantage de gens à travers les blogs. Donc c'est un indicateur que j'utilise. Donc une chose que j'aimerais, c'est de pouvoir
faire passer le message à d'autres gens. Parce que finalement, nous n'atteignons qu'une petite fraction, une fraction minime des habitants de la planète. Bien. Dev, je suis d'accord avec vous. J'ai entendu beaucoup de gens qui ne sont pas dans la communauté de l'ICANN qui disent que nous n'incluons pas suffisamment les opérateurs et les personnes qui doivent donc travailler avec ce type de problème au quotidien. Je ne sais pas vraiment comment les faire participer. Ces gens, quand ils voient le mot politique, ils ont tendance à partir en courant, mais il y a un élément, une communauté opérationnelle qui a besoin de voir que le document SSAC existe, en tout cas. Bien. Je dirais qu'il y a un point qui m'étonne toujours pour l'organisation de soutien. Une des unités constitutives qui, pour moi, est absente. Des gens qui gèrent de grands réseaux. Nous avons des unités constitutives, mais lorsque nous regardons qui c'est qui participe, hein, on ne les voit pas. Comment fournir davantage de contenu? Je ne vois pas PayPal, par exemple, qui devrait nous dire nous avons besoin de telle ou telle chose. Comment être sûr que nos contrats avec les bureaux d'enregistrement ou avec les registres sont clairs, sont bien rédigés. Donc nous sommes un système multipartite, mais nous n'avons pas toutes les parties qui participent. Hein? Donc je me demande comment on pourrait avoir davantage de ces différentes parties prenantes qui participent davantage à tout ce qui concerne la politique. Merci beaucoup. Alain prend la parole. Je ne sais pas quel est le problème d'Adobe Connect, mais il va et il vient. Je vois qu'il y a un problème au niveau du chat. Je ne sais pas si c'est Adobe Connect qui ne marche pas. Si vous voulez parler et que je n'ai pas pris et je n'ai pas vu votre main levée, dites-le. Bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien. Il y a un message ici de ma part qui n'a pas été écrit par moi. Bien. Nous n'avons pas de critique à faire envers ICANN, ils peuvent. C'est assez fascinant. Nous avons une tête avec un grand sourire qui est apparu, donc ça marche. Il n'y a pas de micro, donc plus personne n'est connecté sur Adobe Connect, c'est possible? Ah, voilà, tous les micros sont là. Bien. Bien. Je ne sais pas qui c'est qui contrôle maintenant Adobe Connect. C'est peut-être... Est-ce que quelqu'un donc veut prendre la parole? Bien. Et outre le problème d'Adobe Connect, est-ce qu'il y a des questions? Olivier, allez-y. Merci beaucoup, Alain. Olivier Crépin-Leblanc prend la parole. J'ai une question à vous poser concernant le DNSSEC. Pour reprendre la discussion, une discussion que j'ai eue la semaine dernière, lors d'une conférence, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, vous savez, toute cette histoire du DNSSEC, c'est un peu un problème. Parce que se rendre sur un domaine qui va structurer cela qui va s'occuper du fournisseur, du domaine de premier niveau, tout ça doit être... Et il y a quelqu'un, quelque part, qui... S'il y a quelqu'un quelque part qui a un problème, à ce moment-là, votre domaine n'est plus sûr, aussi sûr qu'il devrait l'être en tout cas, lorsqu'on utilise le DNS sec. Voilà ce que m'a dit cette personne. Je me demande, ça m'a un peu étonnée, je voudrais que quelqu'un me confirme qu'il existe donc une faiblesse au niveau de l'utilisation du DNS sec. Je peux même vous dire qui c'est qui vous a dit ça. Bien. D'abord, il n'a pas tort. Le DNS sec exige que la racine et le CCTLD soient sûrs. Donc ce sont deux étapes dans la chaîne, et y compris vous-même et Google. Vous devez avoir confiance en vous. Et donc si vous partez du principe que la racine et que Google sont OK, à ce moment-là, c'est le CCTLD qui doit vous inquiéter. Et s'il est correct, mais que vous êtes encore net positif, c'est-à-dire que vous avez encore un mécanisme pour valider la réponse que vous recevez du DNS, même si cela dépend de ces trois autres parties, la racine, le TLD et vous-même, c'est toujours mieux que ce que la situation dans laquelle vous étiez auparavant. Donc, à l'époque où on pouvait se demander et qui, quand on avait un problème, qui c'est qui allait avoir le plus d'argent pour pouvoir faire un procès. Donc, Verisign, par exemple, c'est une grande organisation qui travaille avec le DNSSEC et c'est la réponse courte, c'est qu'ils ont raison, mais que vous êtes quand même en avance parce que maintenant vous avez une réponse qui peut être vérifiée de manière cryptographique et que quelque part, il y a quelqu'un qui peut vous mentir. Par exemple, votre connexion entre vous et l'ISP, le fournisseur d'Internet, ou qui va vous joindre avec un appel téléphonique, par exemple, il peut intercepter les changements ou il peut modifier une réponse au DNS et aux questions que vous avez posées au DNS. Le DNSSEC se limite là. Voilà. Il y a des autorités, différents types d'autorités qui sont là, qui sécurisent les sites Internet et qui ont envoyé, donné des excuses pour ne pas déployer certains systèmes, mais ces excuses ne sont pas bonnes. Comme par exemple, qui ne supportent pas le DNSSEC. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci Alain. Oui, mon autre question est aussi liée au DNSSEC. Concernant les développements politiques à Washington DC, ou des questions sur l'encryptage, les clés d'encryptage ont été posées. Et dans certains pays européens, il y a aussi des questions concernant l'utilisation de l'encryptage et des clés d'encryptage. Est-ce que ces clés doivent être données aux agences des forces de l'ordre, ou est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser ce type de clé de cryptage? Donc la question ici, c'est est-ce que cela risque d'affecter la viabilité des DNSSEC dans le monde entier?
C'est vraiment une très très bonne question et je suis sûre que Dave va essayer de la répondre tout de suite. Mais bien sûr, en matière de la racine, je suis la personne qui a conçu la plupart de ces politiques. J'ai rédigé le logiciel. Je sais d'où vient le matériel. Alors, GCHQ et NSA, vous savez qui venir chercher, quelle qu'elle soit cette disposition qui vous intéresse. Mais on n'a jamais eu de visite ou de suggestion de qui que ce soit du gouvernement des États-Unis ou d'un autre gouvernement pour nous demander l'accès à ce système. Pour être sûr, j'ai même contacté moi-même un ancien collègue de la NSA avant de commencer et je lui ai dit ce qui allait se passer pour m'assurer qu'il n'allait pas venir nous demander d'autres informations. Il m'a dit évidemment, bien sûr, non, c'est bon, si cela vaut la valeur que vous lui attribuez, eh bien, c'est très bien. Mais à notre niveau, on a été très transparent par rapport à ce système. Et moi, je suis très fière de dire cela parce qu'il y a des personnes de partout dans le monde qui vont choisir d'autres et qui ont des différentes parties des informations de vérification d'identité qui sont nécessaires pour nous, sans même atteindre notre matériel. On ne pourrait pas le faire si on n'avait pas des personnes capables de faire cela. Même si on ne faisait pas confiance aux personnes responsables, on pourrait faire confiance à ces personnes. Alors, l'aspect politique de cela, pour moi, est très difficile, mais j'espère en tout cas que cela ne va pas suivre le même destin que certains projets à Washington. Une personne qui parle avec un très mauvais son est en train de parler, oui. D'ailleurs, au Royaume-Uni, on n'a jamais eu tant de personnes si mal informées que cela pourrait provoquer un dégâts qui ne pourraient pas être résolus et porter préjudice à d'autres personnes. Pardon, mais le son est vraiment très mauvais. Ce n'est pas possible d'interpréter cela. Je prends la parole. Dave, on s'excuse. Vous n'êtes pas interprété en ce moment parce que votre son n'est pas compréhensible. Dave est en train de parler, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est peut-être que je parle trop vite. C'est parce qu'il y a tellement de personnes de la société civile mais la vraie menace et je discutais de ces questions avec les membres du groupe de travail lorsqu'on parlait des lois. Et on parlait de l'interdiction d'agir sans une licence. Donc l'idée est de voir si les réseaux sont sécurisés. C'est ça que les personnes pensent. Donc si on a différents dispositifs portables, et donc ces personnes semblent confondre ce que fait la technologie avec le but de l'utilisation de cette technologie. Et les personnes croient donc que les deux sont connectés. Mais le problème, ils confondent donc cela au moment de pouvoir comprendre quel est le problème. Mais en fait, la personne qui agit de manière délictive ne savent pas s'ils vont pouvoir utiliser un logiciel ouvert ou de code ouvert. Alors, dans les activités quotidiennes pratiques des personnes qui aident à donner un sens et une utilité commerciale à l'Internet, on oublie qu'est-ce qui intéresse les terroristes ou les personnes qui veulent échanger des informations. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté de la GAN qui pourraient apporter leur compréhension à cette question pour considérer les problèmes de capacité des personnes dans les attentes que ces personnes ont et dans leur possibilité de participer à des activités licites, des activités légales. Merci beaucoup, Dialan. Il y a une question sur le chat qui dit si les communautés autour du monde et la communauté à large peuvent contribuer avec des mesures spécifiques à tout ce travail. C'est une très bonne question et je leur en remercie. C'est Richard qui parle. Je pense que simplement, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est sensibiliser les autres pour améliorer la sécurité. Mais dans le domaine des sites web, par exemple, où les sites web eux-mêmes devraient mettre en place l'IPv6. Je pense que c'est critique en ce moment de mettre en place cette version de l'IPv6 et il devrait y avoir une différenciation pour pouvoir permettre davantage de sécurité. En ce moment, nous avons plus de 80% des TLD qui sont déjà attribués. Donc, tous ces GPD peuvent mettre en œuvre l'IPv6. Les fournisseurs de services Internet, par exemple, contribue à un chiffre qui est 25% des personnes qui ont déjà IPv6. Le site web doit donc être signé avec ce type de protocole IPv6. Ce n'est pas difficile de le faire, mais les personnes doivent d'abord savoir de quoi il s'agit. Et si les personnes ont besoin d'une formation pour savoir de quoi il s'agit, elles devraient demander une formation. Et il faudrait que l'on démarre, que l'on lance la discussion avec vous et avec le reste pour savoir quelles sont les barrières actuelles qui existent. Moi-même, j'ai identifié qu'il y a à peu près 100 sociétés ou propriétés en ligne qui appartiennent aux personnes les plus riches et ces grands sites, en fait, appartiennent à des réseaux de contribution. Ce sont des systèmes de masse qui partagent la charge des sites web pour pouvoir agir et répondre plus rapidement. Ce sont ces sites web, en fait, qui portent préjudice au DNSSEC et au système de distribution en général. Alors, spécifiquement, cela se réduit à un groupe de personnes très réduit qui fait que notre travail soit très difficile, mais la LAC, par exemple, pourrait encourager un client à penser comment mieux s'occuper de son monde. Alors, je pense bien sûr, que c'est grâce au travail de la communauté, au travail de sensibilisation que nous allons pouvoir finir avec cette mise en place de l'IPv6. Donc voilà une motivation pour la communauté. Je vous remercie de cette question, elle était très utile. Alan prend la parole. Merci beaucoup. Je suis sûre que beaucoup de clients de Akamite se disent qu'ils ont déjà demandé cette question. Qu'il y a des utilisateurs des protocoles qui utilisent ces services en vrac et je ne sais pas si on aurait une influence sur eux. Non, ces personnes en fait n'ont pas proposé des moyens réalisables de pouvoir améliorer cela, de le modifier. Alan prend la parole. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste 15 minutes. Alors, s'il y a d'autres questions à poser, c'est le moment de le faire. Hein. Autrement, on finit. Non, je ne sais pas, Cheryl, si on trouvera quoi faire avec ces 15 minutes.
À lundi, essayez de dormir, Cheryl.
Que tout cela sera traduit et retranscrit. C'est pour ça que je ne dis rien, dit Cheryl. À lundi, je ne vais pas vous demander de rentrer dans les détails. Olivier, est-ce que vous levez la main? Oui, dit Olivier, je lève la main. Donc, vous avez la parole, Olivier, dit Alain. Merci beaucoup. Olivier, c'est un blanc, prend la parole. J'ai une autre question concernant le DNSSEC. Lié au coût du déploiement de DNSSEC. Comme vous le savez, un grand nombre des structures à large sont basées dans des pays qui sont des pays en voie de développement. Et je voudrais savoir s'il y a des structures additionnelles et des coûts élevés pour déployer le DNSSEC dans ces pays qui ont parfois des problèmes de budget. Quand on compare cela au fait d'avoir un DNSSEC local, un système local. Oui, ça demande un travail supplémentaire. Si j'ai bien compris votre question, ça demande un travail supplémentaire. Et très souvent, le problème dans les organisations en voie, ou l'organisation des plateformes dans ce type de pays en voie de développement, n'est pas... Ils ont... du personnel qui travaille dans le domaine des forces de l'ordre, etc. Je sais qu'ils sont très intelligents, mais et des fois, ils n'ont pas assez de gens formés dans ce sens et qui ont des connaissances dans le domaine des TIC et donc, ou des TI. Donc, je leur recommande de déployer le DNSSEC, mais des fois, ça demande un coût additionnel et cela peut être même un coût prohibitif. En plus, des organisations commencent à offrir cela dans le cadre de leur service de hosting et je sais que les sites internet de ces organismes dans différentes parties du monde sont plus ou moins de bonne qualité. Donc, si vous avez un service de hosting qui s'occupe de tout cela pour vous, le coût est plus ou moins la même chose que si quelqu'un s'occupait de faire d'ici. Et je pense qu'à long terme, à moins que ce soit des gens qui se consacrent au commerce et de hosting de websites et de gestion de sites internet, hein, et il n'est pas nécessaire de se focaliser. Et que la compagnie elle-même, les gens qui offrent ce service de hosting peuvent le faire et donc l'utilisateur final peut chercher un service de hosting qui offre ce type de choses. Hein. Ça demande des ressources, hein. C'est assez cher, mais ça fonctionne bien. Et au niveau du CCTLD, par exemple, c'est souvent le cas.
On a des gens qui sont très bien formés, et, mais qui ne sont pas assez nombreux. Donc, on a un manque de donc, ressources humaines. Hein. Et parfois, ces agences, ces organisations au niveau local ne sont pas prêtes. Et si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas prêts au niveau technique, hein, ça ne marche pas. Donc, il faut une bonne installation hein, pour que ça marche. Et ce n'est pas quelque chose qui va être monté rapidement et parce que ça risque ensuite de tomber en panne et ça ne servira à rien. Merci beaucoup. C'est Olivier Crépin-Leblanc. Alan, c'est Dave qui demande la parole. Allez-y. Il y a une question dans le chat qui m'était destinée concernant les abus du DNS dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Est-ce que je peux y répondre? Allez-y, allez-y. Bien. Cette personne me demandait comment obtenir un soutien. Je reviens du Caire, où j'ai fait une formation, que j'ai fait aussi au Liban. Et nous travaillons beaucoup dans le domaine du CCTLD en Afrique. Et ce que nous faisons souvent, c'est d'essayer de donner ces formations avec Afrinic, par exemple, ou avec une organisation locale responsable dans la région. Et l'autre question, comment est-ce que nous travaillons avec les différents participants? On demande, ces gens demandent directement à notre, à nos équipes. Et ce sont des parties prenantes au niveau mondial. Et en général, c'est parce que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas fournir ce type de formation. Exactement comme nous voudrions. Donc nous essayons de faire ces cours de formation que nous avons pu mettre en place, fournir donc certains cours sur le type de matériel qui est prêt. Nous essayons de corriger le matériel quand il y a des problèmes qui surgissent, quand on constate qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais je dirais qu'on est un petit peu entre le marteau et l'enclume, et des fois, c'est un cours unique, en tout cas, je peux dire, hein, qui requiert un certain niveau de connaissance et de participation dans le domaine de la recherche ou des enquêtes. Donc, c'est quelque chose de lent, hein. Mettre en place ce type de formation, on ne peut pas demander et la même chose que ce qu'on peut demander à un cours de formation sur le CCTLD, par exemple, hein, dans ce domaine. C'est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Dev. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu il y a un petit moment la main de quelqu'un qui s'était levé, mais elle n'est plus là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons encore quelques minutes. Alberto Soto, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Ma question est la suivante. Au niveau technique, le DNSSEC est déployé dans différents systèmes, c'est ça? C'est correct? Parce que vous avez dit que peut-être qu'un fournisseur va déployer le DNSSEC et que cela, dans un pays, il ne sera pas le même, ce DNSSEC ne sera pas le même que pour un autre fournisseur. Dans quelle mesure ce DNSSEC déployé et peut être similaire à un autre, au système donc de sécurité déjà en place ou pas? Alors, la réponse, dans le domaine du DNSX, ce n'est pas quoi, mais qui. Pour le déploiement, il y a très peu actuellement de fournisseurs de hosting qui fournissent aussi un soutien de DNSSEC. GoDaddy le fait, Kafler le fait, et ils sont présents en Europe du Nord. Je sais qu'il y a aussi d'autres organismes qui fournissent cela en Europe du Nord. Mais on parle de moins de 1% de tous les fournisseurs de hosting actuellement qui soutiennent le DNSSEC. C'est le problème. Une fois que l'on aura davantage de gens qui vont soutenir le DNSSEC, à ce moment-là, l'organisation, la compagnie et en général pourra faire ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire aller voir un organisme pour des services de hosting, va cliquer dans une autre case et va obtenir ce système de DNSSEC. Et c'est un système qui n'est pas vraiment très difficile à mettre en œuvre. Certains petits génies de l'Internet y arrivent, mais il faut quand même une certaine préparation pour y arriver. Donc, je dirais que nous avons besoin d'augmenter la communauté opérationnelle et qu'elle soit présente dans les réunions de l'ICANN. Hein, il faut voir comment déployer ce DNSSEC. Et s'ils essayent d'y penser, ils vont nous dire oui, c'est difficile, c'est compliqué, d'accord, mais on a besoin de le déployer parce que comme ça, une série de problèmes vont être résolus. Par exemple, actuellement, si je parle à quelqu'un dans une grande organisation, non, ils vont me dire oui, j'ai lu cela sur le DNSSEC, on m'a dit que c'était difficile à mettre en place. Et ils peuvent dire cela parce qu'il n'y a pas de demande de la part de l'utilisateur final. Lorsque l'utilisateur final va le demander, ces gens-là vont être obligés d'aborder cela d'une façon différente. Donc, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a très peu de gens qui supportent ces services. Il y a une poignée de quelques fournisseurs de hosting qui le font, mais ce n'est pas du tout quelque chose de massif. C'est une occasion aussi, hein. Pour un bon entrepreneur, hein, c'est une opportunité ici, hein, de fournir cela, d'être un fournisseur qui le fournit quelque part dans le monde, dire nous allons vous fournir un service de hosting complètement géré et un service de DNSSEC pour votre site internet. C'est une manière de se différencier en utilisant le DNSSEC, hein, pour donc mieux capter une clientèle. Hein. Aux États-Unis, 20 millions de personnes aujourd'hui supportent le DNSSEC et c'est une différence, ce qui fait la différence parce que les gens aujourd'hui, la sécurité, ça les intéresse. Hein. C'est pas tout, mais c'est un point de plus qu'ils peuvent ajouter à leur portfolio de marketing et pour la sécurité. Alain prend la parole. Je voudrais vous poser une question de plus. Vous avez dit que la communauté opérationnelle les fournisseurs de services hosting, hein, nous devons les convaincre de venir à la réunion d'ICANN. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Est-ce que vous allez à d'autres réunions? Oui, je dirais que je les rencontre. Je les ai rencontrés par exemple lors de la réunion de MOG il y a quelque temps. Nous avons de la musique. Bien. Donc, je pense qu'il y a eu une réunion du MAG à laquelle ICANN participe souvent, je dirais. Mais il y a aussi, nous devons entrer en contact avec les gens, hein, les fournisseurs de hosting, par exemple, les gens qui ne participent pas à ce type de réunion. Je ne suis pas sûre où les trouver. J'aimerais pouvoir le faire. Ce sont des points importants. Nous devons travailler de plus près avec la communauté des vendeurs de services Internet. Nous devons être plus proches d'eux. Et je pense que c'est une bonne manière de faire passer le message. Hein. Lorsque je travaille avec des communautés de vendeurs, je parle du DNSSEC. Ils me disent, DNSSEC quoi? Je leur explique de quoi il s'agit. Je leur dis s'ils ont besoin de ce type de service. Voilà. Donc, je pense que c'est ça mon travail. Essayer de trouver une meilleure manière de contacter la communauté opérationnelle. Il y a des événements auxquels ils vont de manière régulière, essayer de s'y rendre, essayer d'attirer leur attention. Par exemple, ISBCon, c'en est un. J'essaye de réfléchir aux différentes réunions qui existent et de m'y rendre pour faire donc un travail de sensibilisation. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre des gens, à mettre en œuvre cela s'ils sont un petit peu réticents? Est-ce que vous incluez cela comme prérequis pour donc les achats du gouvernement américain, par exemple? À ce moment-là, tout le monde va l'acheter. C'est un exemple. Oui, c'est un prérequis pour les services du gouvernement américain. Ils l'ont mis en œuvre. Pas vraiment bien, mais ils l'ont mis en œuvre. Et ça n'a pas dépassé le gouvernement américain. Bien. Je pense qu'on a fini. C'est l'heure de conclure notre réunion, dit Alan Greenberg. Je suggère que on regarde des personnes qui est donc travaillent dans des moteurs de recherche, voir avec qui ils travaillent, essayer de leur proposer le service. Je remercie tous les intervenants qui ont fait des présentations. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette webinaire, qui ont écouté et participé à cette webinaire. Je pense qu'on a tous appris quelque chose. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci.